Formation biblique de disciples, cours numéro 8, la conversion. Section 1, repentance, conversion, foi. Première partie, la repentance. Le premier message de l'évangile annoncé par Jean-Baptiste et Jésus lui-même est « Repentez-vous et croyez ». On peut le lire dans Marc 1, verset 15, Matthieu 3, verset 2, Matthieu 11, verset 4 et 17, Marc 1, verset 4, Luc 3, verset 3. La repentance fait partie de la prédication de l'Évangile, de ce que Dieu veut nous faire connaître pour nous y amener. Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, en Luc 24, verset 47. L'apôtre Paul écrit « J'ai prêché la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ». On peut le lire dans Actes 20, verset 21. La première prédication de l'apôtre Pierre s'est conclue par « Repentez-vous » et aussi la deuxième, dans Actes 2, verset 38, Actes 3, verset 19. L'apôtre Jacques exhorte à l'humiliation et à la repentance, dans Jacques 4, verset 9. Repentez-vous est l'exclamation que l'on entend dans toute la Bible lorsque Dieu appelle les hommes à prendre conscience de leurs péchés, à revenir vers lui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Acte 17, verset 30. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Mais la majorité des êtres humains, malgré l'appel de Dieu et sa patience, refuse de reconnaître la cause des malheurs qui frappent le monde et ne veut pas se repentir. Aujourd'hui, le monde vit comme si le péché n'existait pas. Malheureusement, nous savons qu'il est la cause de tous ces malheurs. Les mensonges, les meurtres, les vols, les impuretés de toutes sortes, les adultères, la sexualité débridée et pervertie, les mauvais désirs, les querelles, la cruauté, la brutalité, l'orgueil, l'ambition, l'incrédulité, j'en passe, sont la cause de bien des souffrances. Malgré les fléaux qui les frappent, les hommes refusent de revenir vers Dieu, comme les Juifs au temps de Jérémie et selon ce qui est écrit aussi dans le livre de l'Apocalypse. Jérémie 5, verset 3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Et dans Apocalypse 9, versets 20 et 21, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Et dans Apocalypse 16, versets 9 à 11, « Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Il est certain qu'en se laissant influencer par les raisonnements des inconvertis, les croyants deviennent tolérants en ce qui concerne le péché et trouvent excessif une position fondée sur ce que Dieu dit. Petit 1, qu'est-ce que la repentance? Le mot repentance est la traduction du grec metanoia qui veut dire changer de mentalité, d'intention, de direction opposée. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Romains 12, verset 2, dans la traduction de Parole vivante, dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. » Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. selon donc Éphésiens 4, verset 23, dans la traduction parole vivante. Nous comprenons en lisant cette parole que la repentance est produite par une nouvelle attitude mentale à l'égard du Dieu saint et de notre état de pécheur. C'est ce que nous retrouvons dans les enseignements de Jésus. Dans Luc 18, verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Les sentiments d'une réelle repentance sont premièrement une profonde tristesse, une douleur lorsque nous sommes affligés d'avoir commis une offense. Deuxièmement, l'humiliation, nous nous sentons humiliés, coupables, misérables. Troisièmement, de nouvelles résolutions, le désir profond de changer, d'être délivré de notre tendance au péché. Nous parvenons à la repentance, c'est-à-dire à la tristesse selon Dieu, lorsque nous prenons conscience de notre situation. Alors devant l'évidence, nous pouvons choisir entre deux comportements. Soit que cela nous laisse indifférents, car nous endurcissons notre cœur comme Sédécias, un roi d'Israël. 2 Chroniques 11 à 13. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel le Dieu d'Israël. Soit que nous éprouvons une réelle tristesse qui nous conduit à demander pardon de nos péchés. Nous réalisons alors par une sorte de révélation la gravité du péché par rapport à Dieu ou à ce que nous avons offensé. En fait, lorsque notre conscience est éveillée à la réalité et à la gravité du péché, nous éprouvons un malaise intérieur qui ne peut être apaisé que par le pardon. Ce malaise intérieur qui produit la tristesse et le repentir peut se traduire par des pleurs et parfois même de grands cris, des tremblements ou la prostration. Nous le voyons dans la Bible et cela s'est souvent produit dans les réveils évangéliques. Petit 2, la repentance nous amène à rechercher le pardon. Lorsque nous sommes animés des sentiments de la repentance, nous aspirons à une restauration intérieure, retrouver la paix, la sérénité de l'âme tourmentée par son péché. Nous désirons une relation rétablie avec Dieu ou avec ceux que nous avons offensés. Pour cela, être pardonné est indispensable. Or, le pardon est accordé à ceux qui se repentent sincèrement et le demandent en confessant leurs fautes. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chaque année se déroule dans le monde entier une fête juive appelée Yom Kippour, le jour du grand pardon. Le Yom Kippour est pour le peuple juif un jour d'humiliation dans le jeûne et la prière, un jour où une nation, un peuple et chaque individu de cette nation, de ce peuple, dans le monde entier, prend conscience de sa misère aux yeux de Dieu et lui demande le pardon de ses péchés. Si toutes les nations, tous les peuples de la terre publiaient un jeûne, un jour pour Yom Kippour, bien des choses changeraient dans le monde. Lorsque l'être humain quitte son orgueil, son arrogance et reconnaît sa misère de pécheur, tout devient possible à Dieu, car je crois que l'Éternel Tsebaoth El Shaddai n'est pas indifférent à la démarche des hommes lorsqu'ils se repentent et s'humilient de leurs péchés. Rappelons-nous Ninive, dans Jonas 1. À chaque fois qu'un peuple ou un individu s'est tourné vers Dieu en reconnaissant sa misère et son péché, il a trouvé grâce auprès du Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux. Il y a pour chaque individu un Yom Kippour, un jour d'expiation lorsqu'il reçoit le pardon de ses péchés par la foi en Jésus, dans la repentance et l'humiliation. Mais je crois aussi que ce jour doit se renouveler régulièrement pour chacun, car nous péchons souvent. Il y a un passage obligé pour le pardon des péchés et le salut de tout être humain. La repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la conversion. Ces trois étapes successives, lorsque nous les vivons, nous amènent à l'endroit où Dieu désire trouver chacun, dans sa présence, réconcilié avec lui, dans la paix du pardon et d'une nouvelle relation. La première des trois étapes est la repentance. Elle est indispensable. Jésus dit que si nous ne nous repentons pas, nous périrons. Matthieu 9, versets 12 et 13, Luc 13, verset 13. Si la foi est la condition essentielle au salut, dans Éphésiens 2, versets 8 à 10 et dans Actes 16, verset 31, elle doit être précédée d'une vraie repentance. Jésus est venu sauver non pas des justes, il n'y en a aucun, mais des pécheurs qui, dans l'humiliation, se reconnaissent comme tels. Petit 3, les étapes d'une réelle repentance. La première étape, la conviction de péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu. Lorsque les gens entendirent la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. La repentance est un sentiment qui se produit dans notre cœur à la révélation de la prédication de l'Évangile. La première chose que le Saint-Esprit opère dans le cœur, c'est de nous convaincre de péché. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur situation de pécheur, ni de la gravité de cette situation. Dieu dit que le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. Il s'agit de deux significations de cette réalité. Première signification, la mort physique qui a été la première conséquence du péché dans l'humanité. Deuxième signification, la mort spirituelle qui est la séparation de Dieu et la privation de sa vie en nous. C'est la seconde mort qui se traduit par l'étang de feu, ce qui est appelé l'enfer. Seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction de péché. Voir Jean 16, verset 8. Notre péché attriste Dieu, Éphésiens 4, verset 30. Et est attristé lui-même, il répand sa tristesse dans le cœur qu'il veut gagner. C'est cette tristesse selon Dieu qui produit dans notre cœur une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Voir 2 Corinthiens 7, versets 9 et 10. La conscience sincère est vivement touchée, même chez ceux qui n'ont qu'une connaissance élémentaire de Dieu, car tout homme sait pertinemment qu'il a enfreint la loi morale. L'expérience de David est typique. Hanté par le regret de sa faute, il voit qu'il a par-dessus tout péché contre Dieu. Voir Psaume 51, versets 3 à 6. Deuxième étape, la confession. Beaucoup d'hommes savent très bien qu'ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas en demander pardon à Dieu. La repentance implique que nous reconnaissions et avouons notre péché. L'apôtre Jean écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Selon 1 Jean 1, verset 9. Il est donc indispensable d'avouer nos péchés à Dieu. David lui-même, gardant le silence, ne trouvait aucun repos. Lorsqu'il eut reconnu et confessé son crime devant le Seigneur, il obtint aussitôt l'assurance du pardon. Dans le psaume 32, versets 1 à 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Ainsi fit le fils prodigue. Dans Luc 15, versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Troisième étape, l'abandon du mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là. Il s'agit, par un changement de vie, de produire des fruits dignes de la repentance. Luc 3, verset 8. Paul prêchait partout la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voir Actes 26, verset 20. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Quatrième étape, la complète soumission à Dieu. C'est la conversion et le cri de l'homme terrassé qui s'écrie « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voir Actes 9, verset 6 et Actes 26, verset 20. Et dans Jacques 4, verset 6 et 7, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. » La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. Selon Actes 20, verset 21, « Car en elle-même, elle ne peut aucunement effacer le péché. Elle dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. » Ceci ressort particulièrement de 1 Jean 1, verset 7 à 2, verset 2. Cinquième étape, la persévérance dans une attitude constante d'humilité. Tant que nous serons ici-bas, nous aurons des progrès à faire, des victoires à remporter. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Nous ne sommes pas obligés de pécher, mais la possibilité en est toujours présente. Jacques 4, verset 17. 1 Jean 3, verset 16. Matthieu 5, verset 48. Un chrétien auquel sa conscience ne parle plus est dans un état terriblement dangereux. Voir Apocalypse 3, verset 17. L'apôtre Jean écrit à des enfants de Dieu dans 1 Jean 1, versets 8 à 10 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Paul nous avertit que nous pouvons toujours attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Voir Éphésiens 4, verset 30. Que doit donc faire le croyant convaincu d'une faute dans sa vie quotidienne? Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de la conversion, mais persévérer chaque jour dans une attitude d'humilité, confesser aussitôt tout péché reconnu et saisir la purification que lui offre le sang de Christ répandu au calvaire. Il connaîtra la marche dans la lumière dont parle l'apôtre Jean. 1 Jean 1, verset 6-7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Alors le Saint-Esprit le fera progresser chaque jour dans la sanctification. Petit 4. La vraie repentance est une grâce de Dieu. Sans son aide et sans son esprit, il est impossible de se repentir. Voir Actes 5, verset 31. Actes 11, verset 18, Romains 2, verset 4, 2 Timothée 2, verset 25, 2 Pierre 3, verset 9. Dieu a élevé son Fils Jésus-Christ par sa puissance comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voir Actes 5, verset 31. Comme nous le voyons, Dieu offre à tous les êtres humains l'occasion de se repentir en les y poussant de différentes manières. Celui qui reprend une personne qui est en faute doit la redresser avec douceur dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Jésus dit qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Voir Luc 5, verset 32. Alors nous devons répondre à son appel, car ceux qui délibérément et jusqu'au bout repoussent le Christ et refusent son salut ne peuvent être amenés à la repentance. Voir Hébreux 6, verset 6. Hébreux 10, versets 26 et 27. Ils connaîtront peut-être le remords tardif, un repentir superficiel et inefficace comme celui d'Ésaü devant les conséquences de son attitude profane, voire Hébreux 12, versets 16 et 17, ou encore le repentir désespéré de Judas qui ne le conduisit qu'au suicide, voire Matthieu 27, versets 3 à 5. C'est la tristesse selon le monde qui est plutôt le regret concernant les conséquences de la faute produisant la mort. Voir 2 Corinthiens 7, verset 10. Ce sentiment n'a rien à voir avec la véritable repentance qui est la réponse réelle au problème du péché. Ne méprisons pas la grâce que Dieu nous accorde en nous donnant la possibilité de nous repentir de nos péchés. Dans Romains 2, verset 4, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? L'appel que Dieu adresse au monde comme à l'Église est toujours « Repens-toi, repentez-vous ». Acte 17, verset 30, Apocalypse 2, verset 5, Apocalypse 16, Apocalypse 21 et 22, Apocalypse 3, verset 3, Apocalypse 20. Il nous donne du temps pour que nous puissions le faire. Il nous assure que la repentance détournera le châtiment, car dans sa miséricorde, il ne peut résister à qui s'écrie humblement « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Luc 18, versets 13 et 14. Dieu conduit ceux qui se repentent à la révélation du seul moyen de pardon et d'expiation des péchés, la croix de son Fils Jésus-Christ. Deuxième partie, la conversion. La conversion est absolument nécessaire au salut. Matthieu 18, verset 3. Définition. La conversion. Dans l'hébreu, c'est le mot choub, C-H-O-U-B, c'est-à-dire le revirement soit au sein d'une collectivité, soit chez un individu. Dans le grec, c'est le mot épistrophe, épistréphène, E-P-I-S-T-R-O-P-H-E et E-P-I-S-T-R-E-P-H-E-I-N, qui signifie tourner, se tourner en sens contraire, revenir sur ses pas, rentrer en soi-même. Selon le dictionnaire encyclopédique, c'est se diriger de nouveau vers le point d'où l'on s'éloignait, se retourner, se tourner vers. Petit 1, la conversion. Elle a pour raison la déchéance de l'homme, elle a pour mobile la conviction de péché et elle a pour fruit la régénération. La conversion n'est que pour les pécheurs. Voir Psaume 51, verset 13, Matthieu 13, verset 15, Matthieu 18, verset 3, Marc 4, verset 12, Jean 12, verset 40, Acte 3, verset 19, Acte 28, verset 27. Petit 2, la conversion dans l'Ancien Testament. Voir le Psaume 51, verset 12. La conversion, c'est de retrouver un esprit bien disposé, un cœur pur. Voir Ésaïe 6, verset 10. Pour la conversion, notre cœur doit être sensible et pour y arriver, nos oreilles et nos yeux doivent être ouverts. Ésaïe 55, verset 7. La conversion est également démontrée et manifestée par la repentance. Premièrement, abandonner ses voies. Deuxièmement, abandonner ses pensées. Troisièmement, revenir à l'Éternel. Petit 3. La conversion dans le Nouveau Testament. Matthieu 10, 18, verset 3. Jésus met l'accent sur l'un des caractères essentiels de la conversion. Renoncer à ses ambitions égoïstes, redevenir à l'état de petits-enfants. Luc 22, verset 32. Matthieu 26, verset 75. Quand tu seras converti, c'est-à-dire rentré en toi-même, inébranlable dans mon service, les larmes de Pierre nous montrent que le début de la conversion, c'est la repentance. Luc 15, la parabole du fils prodigue, l'égarement, la déchéance, la souffrance, la repentance. De tout cela naît, jaillit une décision intérieure, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Petit 4, il ne peut y avoir de conversion sans repentance. La part de l'homme. La conversion est une décision personnelle, un acte de volonté de l'homme, le moment où celui-ci change de direction et décide de sa destinée. La part de Dieu. Le don de l'Esprit. Il répond à la conversion, il régénère le pécheur repenti, c'est la nouvelle naissance. Psaume 19, verset 7. Jean 3, verset 5. 1 Pierre 1, versets 18 et 23. La grâce, elle sollicite la conversion et la prépare. Voir Ézéchiel 33, verset 11. Cela vient de Dieu et ne peut venir que de lui. Petit 5. La conversion n'est pas d'échanger un système religieux contre un autre. Elle n'est pas du catholicisme au protestantisme. Elle n'est pas de passer du culte de Baal à celui de Jéhovah, et elle n'est pas du rationalisme à l'orthodoxie. Petit 6, la conversion, c'est une activité de l'âme, c'est par respect pour cette libre conversion que Jésus a accepté la croix, changer de voie et non améliorer sa vie, une horreur et une haine du péché. Non seulement par crainte d'être puni, mais nous haïssons le péché car nous savons qu'il déplaît à Dieu. Un changement complet d'orientation, un volte-face de l'être tout entier vers le Seigneur. Les œuvres, le progrès, le perfectionnement de l'homme naturel ne nous amènent pas à la conversion. Se détourner d'une vie de péché vers une vie de sainteté, vivre une vie totalement opposée à celle qu'on vivait avant notre conversion. Tout le mécanisme de la conversion est vu dans Matthieu 3, versets 5 à 16. Il y a confesser ses péchés, donc la repentance, disparaître sous l'eau, c'est le symbole de mort à soi-même, reparaître à la surface, c'est le symbole de la résurrection, donc le baptême d'eau, sortir de l'eau pour entreprendre une carrière nouvelle. Le pécheur sur la voie de la perdition s'arrête et fait résolument demi-tour pour marcher désormais sur le chemin de la vie éternelle. Dieu ne pousse pas l'homme à venir à lui. Il le sollicite par l'esprit, mais lui laisse la responsabilité d'une décision personnelle. On ne peut pas séparer la conversion de la repentance et de la foi. Acte 3, verset 19. Acte 11, verset 21. Acte 20, verset 21. Petit 7, que produit la conversion? Une purification de tout péché et une guérison physique. Ésaïe 6, verset 10. Matthieu 13, verset 15. Marc 4, verset 12. Acte 3, verset 19. Acte 28, verset 27. Le péché n'existe plus si le pécheur s'est véritablement tourné vers Dieu. La conversion donne d'être nettoyé du péché. Acte 26, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. 1 Jean 1, verset 7 à 9. Le péché n'est plus si le nouveau converti marche en conformité avec Christ et à sa nouvelle vie. Romains 6, versets 16 et 23. Romains 8, versets 1 à 13. Galates 5, verset 24. Colossiens 2, versets 6 à 7. Hébreux 12, verset 14. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 2, verset 1 et 29. 1 Jean 3, verset 5 à 10. 1 Jean 5, verset 1 à 5. Et verset 18. Christ est notre avocat. Si jamais le nouveau converti pêche, il y a un avocat près du Père et peut être lavé à nouveau. Voir 1 Jean 2, versets 1 et 2. Paul explique la conversion. Voir Actes 26, versets 18 à 20. La conversion, c'est de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Nous nous détournons de notre vie de péché, de la puissance de Satan dans notre vie, pour nous conformer à la vie et à la sainteté de Dieu. Nous voyons à nouveau les deux éléments inséparables de la conversion, la repentance et la foi. Petit 8, Dieu travaille à la conversion des hommes par la prédication. Acte 2, verset 37. La foule eut le cœur transpercé par le discours de Pierre. Le cœur transpercé, c'est une émotion morale, un éveil de la conscience, une conviction des péchés. De cela découle la repentance, le baptême, le pardon des péchés. Ils reçurent le don de l'Esprit par lequel on est de nouveau, la conséquence du pardon. C'est ainsi que l'homme se convertit et se sauve de la génération perverse. Le prédicateur fidèle prêche la conversion par amour pour l'homme, que le péché dénature et que la conversion à Dieu établit dans sa puissance et sa beauté. La difficulté qu'il va rencontrer, c'est que son message l'oblige à proclamer au monde qu'il ne peut servir de maître. Le christianisme qui condamne l'homme naturel existe et exige sa conversion à Dieu, et l'humanisme qui glorifie l'homme naturel et le met à la place de Dieu. Exemple d'humanisme, l'humanisme politique. Au temps des premiers chrétiens, l'humanisme divinisait l'empereur. Humanisme littéraire. Au temps de la Réforme, l'humanisme ameutait les libertins contre Calvin. L'humanisme scientifique ou social de notre temps, l'humanisme exclut l'enseignement chrétien de nos écoles. L'humanisme historique, l'homme se cherche hors de Dieu pour lui-même, par lui-même, avec une foi dans ses moyens et un orgueil de sa force. Il rend Dieu inutile et l'exclut. Il s'irrite de toute révélation humiliante prêchée de la part de Dieu, car elle dévoile à l'homme la corruption de sa nature et la nécessité de sa conversion. Petit 2, petit 9, différence entre le christianisme et l'humanisme. Dans le christianisme, l'homme est une créature liée à Dieu. Dans l'humanisme, l'homme ne dépasse pas l'homme. Dans le christianisme, il est le pécheur et en révolte contre Dieu. Dans l'humanisme, l'homme n'est rien qu'un homme. Dans le christianisme veut que l'homme se convertisse, qu'il se laisse conduire par un Dieu souverain. Et l'humanisme veut que l'homme s'exprime, que sa vie soit une expansion de ce qu'il possède déjà. Pour toutes ces raisons, on ne peut servir l'humanisme et le christianisme. Conclusion, la conversion demeure la grande actualité, la grande difficulté et la seule solution pour le problème de l'humanité. Que notre prédication, tout comme celle de Paul, se résume en ceci. Selon Actes 26, verset 20, se repentir, se convertir, faire des œuvres dignes de repentance. Le monde d'aujourd'hui a bien besoin de revenir à la source au lieu d'essayer d'en trouver des nouvelles. La conversion trouve son aboutissement dans la régénération. La conversion est liée à la justification. La justification ouvre une vie nouvelle à l'homme qui est introduit par la conversion, car l'homme a besoin du pardon pour abolir son passé et de la force pour vivre sa nouvelle vie. Dieu répond à cela par la régénération. Nous voyons en cela que Dieu a tout pourvu pour l'homme au travers du salut. Troisième partie, la foi. Petit 1, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas, selon la version Darby. La foi, c'est faire reposer l'entière responsabilité sur Dieu, dans une confiance absolue en sa sagesse, son pouvoir, et être patient, endurant. La foi, c'est une attitude de soumission à Dieu, c'est arriver à un abandon complet de nous-mêmes. La foi, c'est dépendre totalement de Dieu. La foi perçoit comme un fait réel ce qui n'est pas révélé à nos sens. La foi, c'est être pleinement convaincu. La foi, c'est recevoir ce que Dieu a révélé. La foi s'oppose au péché, et bien que nous péchions tous les jours, elle nous permet de saisir le pardon de Dieu pour nous. La foi n'est pas une connaissance, c'est la confiance en Dieu à cause de ce qu'il a accompli pour nous lorsque Christ est mort sur la croix. La foi, c'est plus que recevoir la guérison ou les réponses à nos prières. C'est une façon de vivre qui plaît à Dieu. C'est une bonne relation avec Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi en son Fils, car Dieu s'est révélé à travers lui. Petit 2, la nature de la foi. La foi, c'est le fruit de l'Esprit, voir Galates 5, verset 22. C'est l'œuvre de Dieu, voir Jean 6, verset 29. C'est le don de Dieu, voir Éphésiens 2, verset 8. Et elle vient du cœur, voir Romains 10, verset 9 et 10. Petit 3, la loi de la foi. Matthieu 8, verset 13. Matthieu 9, verset 29. Hébreux 11, verset 6, Jacques 1, verset 5 à 8. Quand nous avons la foi, nous devons, selon Marc 11, verset 22 à 24, d'une part confesser et dire « ôte-toi et jette-toi dans la mer », d'autre part ne pas douter, « ne doute pas en ton cœur », croire, « croira », recevoir, « ce qu'il aura dit, lui sera fait ». Petit 4, quel est pour nous le bénéfice de la foi? La foi nous donne d'être agréable à Dieu, selon Hébreux 11, verset 6, d'être sauvé, selon Éphésiens 2, verset 8, de vivre, selon Romains 1, verset 17, d'être justifié, selon Romains 5, verset 1, d'être sanctifié, selon Actes 26, verset 18, d'être gardé pour le salut, selon 1 Pierre 1, verset 5, d'être victorieux du monde, selon 1 Jean 5, verset 4. Petit 5, l'importance de la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Car sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent promptement. » La foi est vitale, car sans elle, non seulement nous ne pouvons pas plaire à Dieu, mais nous ne pouvons pas non plus obtenir notre salut et ses promesses. Petit 6. Comment avoir la foi? C'est un don de Dieu. Voir Romains 12, verset 3, Éphésiens 2, verset 8, 2 Pierre 1, verset 1. Elle vient de la parole. Voir Romains 10, verset 17. La seule chose que nous devons faire, c'est ouvrir notre cœur et nos oreilles, avoir une bonne conscience et recevoir avec confiance. Voir Hébreux 4, verset 7, 1 Timothée 1, verset 19. Pour le chrétien, la foi s'exerce tous les jours. Pour cela, il doit vivre par la foi, voir Romains 1, 17, marcher par la foi, voir Romains 4, verset 12, prier avec foi, Matthieu 21, verset 22, résister avec foi, Éphésiens 6, verset 11 et 16, et vaincre le monde, 1 Jean 2, verset 13 à 17. Petit 7, notre foi est démontrée par nos œuvres. La foi agit avec les œuvres et par les œuvres, la foi est rendue parfaite, selon Jacques 2, verset 22. Et dans Jacques 2, verset 17 à 18, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Exemple, Abraham offrit Isaac. Jacques 2, verset 21. Autre exemple, Noé fit l'arche, voir Hébreux 11, verset 7. Luc 5, verset 18 et 19. Les hommes amenèrent leur ami pour qu'il soit guéri par Jésus. Donc ils surmontèrent leurs difficultés, la foule et le toit. Et Jésus vit leur foi, voir le verset 20. Par sa confession, le chrétien peut mettre des limites dans sa vie. Le fruit de nos lèvres nous conduit dans une vie de victoire ou de défaite. Le dictionnaire Webster définit la confession comme la déclaration d'une croyance, spécialement la confession de foi. Il définit aussi celui qui confesse sa foi comme quelqu'un qui a souffert pour sa foi. Daniel 3, versets 16 à 18, Shadrach, Meshach et Abednego entrèrent dans la fournaise ardente à cause de leur foi en Dieu, et Dieu fut exalté et glorifié par leur acte de foi. Acte 7, versets 57 à 60, Étienne fut tué par ceux à qui il proclamait la parole. Il vit les cieux s'ouvrir et le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Acte 9, versets 11 à 16, l'obéissance d'Ananias a conduit à la conversion de Saul de Tarse. Dans chaque bataille, chaque victoire, chaque chose que nous recevons de Dieu, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Nous avons notre part à faire. S'il y a un échec, cela vient de nous, car Dieu ne faillira jamais. Si nous faisons notre part, nous pouvons être assurés qu'il y aura une réponse et la victoire. Petit 8, nos actions nous rendent victorieux et nous conduisent à la défaite. Ne nous appuyons pas sur ce que nous éprouvons ou ressentons, mais agissons en accord avec nos paroles et les sentiments suivront. Il n'y a pas de foi sans confession. Confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons, témoigner pour une vérité que nous avons embrassée. Petit 9, la confession de notre foi crée la réalité. Je me souviens d'un témoignage que June Lewis, une enseignante américaine de la parole, avait donné lorsque son mari a eu besoin d'un centre de rééducation et qu'il n'y en avait pas là où elle se trouvait. Elle a prié et Dieu lui a dit de ne pas s'inquiéter, car même s'il n'y en avait pas, il en créerait un. Elle devait seulement confesser la parole que Dieu lui avait donnée. Elle l'a fait et un centre de rééducation a été construit près de chez elle. C'est dans ce sens que la confession de notre foi produit la réalité. Même si quelque chose n'existe pas, Dieu peut l'amener à l'existence. Petit 10, la foi est active. Prenons l'exemple d'un enfant qui est en hauteur et à qui le père dit de sauter dans ses bras. L'enfant ne va pas se demander si son père va le saisir. Il lui fait confiance car il sait que son père l'aime et il ne lui veut aucun mal. Il se jette donc sans réserve dans ses bras. C'est la même chose pour nous vis-à-vis de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons compter sur sa miséricorde et accepter tout ce qu'il veut nous donner. Petit 11, il y a deux sortes de foi. La foi intellectuelle par la connaissance de la tête, je ne crois que ce que je vois. Et la foi spirituelle par la connaissance du cœur, je crois car Dieu a dit. Dans Jean 20, verset 29, Thomas était l'un de ceux qui croyaient avec la tête. Ce n'est qu'après avoir touché Jésus qu'il a pu croire. Alors Jésus lui a montré la seule voie pour croire et lui a dit: Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Abraham fut compté parmi ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Voir Romains 4, versets 17 à 21. Il n'a pas regardé à lui-même ou à son corps, mais il a regardé à Dieu. À cause de cela, sa foi lui fut comptée à justice. Selon Romains 4, verset 22, nous lisons que cela nous a aussi été compté à justice, voire verset 23. Notre salut vient de la foi, voire Éphésiens 2, verset 8. Dans Actes 11, versets 13 et 14, un ange informa Corneille qu'un homme nommé Pierre lui parlerait et que ses paroles l'amèneraient au salut. Ceci nous montre que les hommes sont sauvés par l'écoute de la parole de Dieu. Voir Romains 10, verset 17. La foi, c'est simplement recevoir les paroles de Dieu comme étant la vérité. Dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme, ni un fils d'homme pour se repentir. Ceci est une promesse confirmant la véracité de la parole de Dieu. La foi ne croit pas obtenir une réponse dans le futur, mais croit obtenir une réponse maintenant. La foi voit la réponse en regardant continuellement dans la parole et en agissant en accord avec ce qu'elle voit. Dans Matthieu 12, verset 34, Jésus a dit: De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que tu dis révèle ce que tu crois être vrai dans ton cœur. En agissant selon la parole, en la mettant en pratique, notre foi est affermie jour après jour. Voir Jacques 1, verset 22. Petit 12, la foi comprend quatre aspects importants et ils impliquent tous le Seigneur Jésus-Christ. Petit A, la foi dans la personne de Christ. Voir Actes 16, versets 30 et 31 et Actes 20, verset 21. Nous devons connaître Jésus, savoir qui il est exactement et nous tenir fermement sur le rocher de notre salut. L'Écriture révèle Jésus-Christ comme le Messie. Voir Luc 24, versets 20 à 32. Jésus dit qu'il est le Messie. Voir Jean 4, versets 25 et 26. Moïse écrivit au sujet de Jésus. Voir Jean 5, versets 45 à 47. Il est le Fils de Dieu. Voir Jean 6, versets 67 à 69. Petit b, la foi dans la mort et la résurrection de Christ. Jésus est mort pour chacun de nous. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il en a porté le châtiment. Voir Ésaïe 53, versets 3 à 6. De même que les Israélites furent guéris et sauvés de la mort en regardant au serpent d'airain, voir Jean 3, versets 14 et 15, nous pouvons avoir la vie éternelle en regardant à la croix Jésus crucifié. Voir Romains 5, versets 6 à 8. Jésus est ressuscité des morts et s'est montré aux hommes, révélant qu'il était Seigneur et Christ. Actes 2, versets 22 à 24. Les évangiles ont été écrits afin que nous puissions croire et être sauvés. Voir Jean 20, versets 24 à 31. Croire en sa résurrection est vitale. Voir Romains 10, verset 9. Notre propre résurrection dépend de celle de Christ. Voir 2 Corinthiens 4, verset 14. Petit c, la foi dans son sang et ses fonctions de souverain sacrificateur. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est devenu un sacrifice pour nous et a présenté son propre sang comme une offrande pour nos péchés. Cela fut fait une fois pour toutes au calvaire. Voir Romains 3, versets 21 à 28, Hébreux 7, versets 23 à 38, Hébreux 9, versets 24 à 26, 1 Jean 1, verset 7. Petit d, la foi dans son retour sur terre. Voir Matthieu 24, versets 27 à 30, Acte 1, versets 10 à 11, 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18 et 1 Jean 3, versets 2 et 3. Nous savons que Jésus va revenir et nous soupirons après ce retour. Notre foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu et particulièrement sur celle des deux anges, donnée dans le livre des Actes au moment où Jésus est monté au ciel. Ces quatre aspects sont ce qu'on appelle avoir foi en Dieu. La foi en Christ est sûre et solide car Christ est celui qui la suscite. Il en est l'auteur et il la perfectionne. Voir Hébreux 12, verset 2. Petit 13, la foi peut être sans borne, voir Jean 11, versets 21 à 27, commune, voir Tite 1, verset 4, grande, Matthieu 8, verset 10, sainte, Jude 20, humble, Luc 7, verset 6 et 7, mutuelle, Romains 1, verset 12, petite, Matthieu 8, verset 26, parfaite, Jacques 2, verset 22, précieuse, 2 Pierre 1, verset 1, sans racine, Luc 8, verset 13, sincère, 1 Timothée 1, verset 5, vaine, 1 Corinthiens 15, verset 14 à 17, entreprenante, Matthieu 14, verset 28 et 29, petit 14, la foi se manifeste dans différents domaines. Le salut, accepter avec confiance l'œuvre de Christ, voir Romains 4, verset 5, Romains 4, verset 23 à 25 et Romains 5, verset 1. La prière, la confiance que Dieu notre Père est fidèle à sa promesse, voir 1 Jean 5, verset 14 et 15. L'invisible, nous le voyons comme étant visible, réel. La vie pratique, notre confiance est en Dieu. Petit 15, les 21 bénédictions qui suivent la foi. Premièrement, l'entière guérison, acte 3, verset 16. Deuxièmement, la protection, Matthieu 8, verset 26. Troisièmement, la provision, Matthieu 16, verset 8 à 10. Quatrièmement, le pardon, Luc 7, verset 50. Romains 3, verset 25. Cinquièmement, les miracles. Actes 6, verset 8. Galates 3, verset 5. Sixièmement, la purification du cœur. Actes 15, verset 9. Septièmement, la sanctification. Actes 26, verset 18. Huitièmement, la justice. Romains 3, verset 22. Romains 9, verset 30. Neuvièmement, la justification. Romains 3, versets 28 à 31, Romains 4, versets 1 à 25. Dixièmement, la stabilité, 1 Corinthiens 16, verset 13, 2 Corinthiens 1, verset 24. Onzièmement, le Saint-Esprit, Galates 3, versets 2 et 14. Douzièmement, le salut, Éphésiens 2, versets 8 et 9. Treizièmement, Christ en nous, Éphésiens 3, verset 17. Quatorzièmement, le baptême en Christ, Colossiens 2, verset 12. Quinzièmement, les œuvres de puissance. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. Seizièmement, l'assurance. Hébreux 10, verset 22. 17e, la patience. Jacques 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 7. 18e, être héritier. Jacques 2, verset 5. 19e, la force de résister au diable, 1 Pierre 5, verset 9. 20e, la victoire sur le monde, 1 Jean 5, verset 4. 21e, l'édification, Jude 20. Petit 16, deux exhortations nous sont données concernant la foi. Hébreux 10, verset 23, retenons la confession de notre espérance sans chanceler. 1 Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Petit 17, que devons-nous faire pour combattre ce bon combat? Nous devons recevoir les promesses et confesser que nous sommes étrangers ici-bas. Voir Hébreux 11, verset 13. Après avoir saisi les promesses, le bon combat de la foi commence. Satan essaiera de nous faire douter de la parole de Dieu comme dans Genèse 3, verset 4. Le chrétien qui combat le bon combat de la foi, mais qui n'a pas encore reçu la promesse, doit saisir la parole de Dieu pour lui, la retenir et la chérir dans son cœur. Il doit aussi endurer les épreuves en demeurant fort face aux circonstances qui peuvent être contraires à la parole reçue. En agissant ainsi, il verra l'accomplissement de cette parole. Hébreux 10, versets 23 et 36. En faisant cela, nous suivons les pas de ceux qui, au travers de la foi et de la patience, ont hérité des promesses. Voir Hébreux 6, versets 11 et 12. Conclusion, si nous avons la foi en Dieu, la preuve claire et définitive de l'authenticité de notre foi sera notre changement de vie et le témoignage de l'Esprit. La foi en Dieu voit l'invisible, croit l'incroyable, reçoit l'impossible. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Comment peut-on se repentir? D'où vient la repentance? Y a-t-il des fausses repentances? Si oui, lesquelles? Donnez des exemples. Deuxième question. Y a-t-il une différence entre la repentance et la conversion? Si oui, expliquez-la en donnant des versets bibliques. Troisième question. Qu'est-ce que la foi biblique par rapport aux croyances du monde? D'où la foi biblique prend-elle sa source par rapport aux croyances mondaines? Expliquez-vous. Quatrième question. Sans la foi biblique, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi? Justifiez votre réponse par des versets bibliques.